Je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Si jamais il y a un but que je poursuis, c'est la singularité.
Essayez toujours de se cultiver, de se frotter au savoir des autres.
Beaucoup travailler.
Le musée SACEM présente Dans la peau d'un auteur, un podcast écrit, réalisé et présenté par Sandra Bechtel.
Qu'il soit compositeur ou parolier, émergent ou confirmé, dans l'ombre ou la lumière, chaque auteur porte en lui une musique singulière, au rythme unique qui résonne. Comment déchiffrer un auteur ? Peut-être comme une partition, avec méthode, patience, désir et précaution. C'est ainsi que nous allons nous glisser, aujourd'hui mercredi 1er août 2018 à Paris, dans la peau de Dominique Dalcan, un auteur, compositeur, chanteur, explorateur, qui marche avec instinct et liberté sur le fil d'un perpétuel mouvement. Bienvenue dans le tumulte de sa tempérance.
Alors, Dominique, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans un endroit complètement insolite, que je ne connaissais pas, que j'adore. Je suis contente que tu sois là avec moi. Très contente.
Vraiment.
C'est un honneur. Donc, peux-tu me dire, pour commencer très simplement, ton nom et ton prénom ?
Alors, je m'appelle Dominique Dalcan.
D'accord. Est-ce que tu as un pseudo ? Est-ce que c'en est un, peut-être même ?
C'en est un. Voilà. Mais, enfin, c'en est un sans être un. C'est un nom familial. Donc, voilà. Après, c'est une question d'ordre, comme beaucoup de choses dans la vie.
Peux-tu me dire l'intitulé exact pour toi de ton métier ?
Je me considère comme chanteur et artiste sonore. Et plus précisément, de manière plus détaillée, je suis auteur-compositeur-interprète. Avec au départ en effet une vraie attirance et quelque chose de, on va dire, naturel vers le chant.
Ouais.
Et progressivement, en fait, je me suis interrogé sur la forme que devait, non pas prendre le chant, mais comment on devait mettre le chant dans un environnement particulier et spécifique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des chansons et que, au fil du temps, la structure de ces chansons, elle a un peu évolué. Et aujourd'hui, je crois que j'essaie de mettre un peu de silence dans mes morceaux, mais tout en gardant l'aspect vocal. Et l'aspect vocal aussi a changé. Donc en fait, il y a une réflexion comme ça autour du son et de la matière, et puis de me retrouver là-dedans avec quelque chose donc du coup de phrase organique. Donc ça paraît beaucoup de phrases et beaucoup de mots, mais en fait, fondamentalement, ça a même un rapport avec l'endroit où on est aujourd'hui, voilà, qui est à la fois minéral et végétal. Et je trouve que ça, c'est très, très important, en tout cas dans mon ressenti, dans ma manière de, finalement, de voir le monde, en fait, de concevoir tout du monde.
D'accord. Ton nombre d'années de carrière, tu estimes ?
25 ans.
D'accord. Ok. Alors, tu habites où ? Ça m'a l'air compliqué, cette question, mais peut-être je vais avoir une réponse.
Bah, pour l'instant, j'habite dans le 13e.
D'accord. Qu'est-ce que tu considères être comme ton signe particulier ?
L'instinct.
Ok, bien. Est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu aimes, une chose qui te procure du plaisir ?
Moi, je suis à la recherche du plaisir. Le plaisir lutte, enfin, le plaisir égale liberté. Et en fait, liberté, il faut s'autoriser la liberté. Et s'autoriser la liberté, je crois que c'est un des trucs les plus durs dans la vie.
Et du coup, une chose que tu adores, ah, vraiment, c'est ultime pour toi.
J'aime beaucoup. La glace au chocolat noir. Voilà.
Ah ben voilà, c'est concret. À l'inverse, quelque chose qui te déplaît.
Moi, je suis végétarien, donc je ne mange ni viande ni poisson. Donc ça me déplaît fortement.
Ok. Et quelque chose que tu détestes ?
C'est les a priori.
Ok. En trois mots, au sens propre, tu dirais quoi de toi ?
Sensible, obstiné et chantant.
Tu es un auteur, forcément. Tu es un chanteur. Tu écris, tu composes, voilà. Tu crées. Peux-tu me dire comment tu te considères dans cette fonction d'auteur ? C'est-à-dire quel est ton rapport à l'écriture ?
Enfin, déjà, j'ai essayé de définir. C'est une question intéressante parce que, au début, j'ai commencé à définir un vocabulaire et une grammaire qui m'étaient propres. Donc, je pense que d'ailleurs, c'est un peu le travail de tout artiste pour définir ce qui sera dans le futur son propre style.
Mais c'était donc, conscient du coup, dès le début, consciemment, ouais, tu as voulu faire ça.
Voilà, exactement. Ah, oui. C'est-à-dire, j'ai pas du tout travaillé autour de morceaux déjà existants, de modèles. Ce que je voulais, c'était être capable, et bon, finalement, c'est toujours le cas aujourd'hui, d'essayer d'exprimer une idée qui m'était propre et qui me ressemblait par rapport à un cadre qu'on va appeler une chanson.
D'accord.
Donc ça, c'est un truc... Mais après, on peut le faire de plein de manières différentes. Et donc, j'ai l'impression d'avoir passé tout le début de ma carrière dans un apprentissage comme ça, à se définir son propre folklore. Donc ça, c'est aussi un truc que je trouve assez primordial. Et une fois qu'on pourrait imaginer que c'est acquis, je suis après rentré dans une phase de déconstruction, parce que en fait, le fait de se réinventer disque après disque, œuvre après œuvre, en fait, il est fondamental. Pour garder une certaine candeur et une fraîcheur et quelque chose de spontané et qui finalement pourrait presque être un trademark. Et du coup aujourd'hui je pense que j'essaye complètement d'être perméable. Et tout ce qui vient à moi est source d'inspiration et peut être un matériau pour un futur texte, une future idée, une future vidéo, une future chanson. Donc voilà, en fait, donc c'est une position d'attente et surtout après une rapidité foudroyante pour essayer de traduire en fait une émotion en une idée.
D'accord. Du coup, quand tu dis tout ce qui
vient... Je pense que ça, c'est très central. Enfin,
ouais.
C'est vraiment un truc assez important tout d'un coup. Là, il y a un truc un peu sérieux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un axiome sur lequel je m'appuie aujourd'hui.
Le fait que tout ce qui vient à toi est une source, est une matière à exploration.
Exactement.
Du coup, ta libido artistique, c'est ça ? C'est-à-dire, tu la nourris comme ça, avec vraiment au quotidien.
Ouais, exactement.
Tu vas pas forcément chercher des choses.
Non, je vais rien chercher. Enfin, il y a quand même une exploration, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas de palmarès. Il y a pas quelque chose de mieux que. Il y a pas de podium, en fait. Il n'y a pas quelque chose de mieux qu'autre chose. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, notre entretien peut être tout aussi important ou impactant que, j'en sais rien, une pièce de théâtre que je pourrais aller voir ou un ballet. Mais réciproquement, un ballet, d'un coup, peut finalement débloquer complètement une situation finalement une problématique qui serait artistique, voire au-delà, finalement, personnelle. Mm. Et finalement aussi, tout ça est un peu un vaste communicant.
Oui.
Donc, voilà.
D'accord. Du coup... T'en as un peu parlé, mais pour aller plus loin, comme dans ce chemin-là, maintenant où t'en es, ton identité artistique, est-ce que tu trouves qu'elle est, elle est claire pour toi ? C'est une continuité de celle que tu avais au début, ou elle a vraiment beaucoup beaucoup changé ?
Elle a changé, mais elle est restée fidèle à ce que j'étais quand même au début. À savoir quelqu'un d'éclectique et puis d'assez quand même sincère dans ce que je faisais. Et j'ai pas forcément cherché par exemple à plaire, c'est-à-dire donc pas forcément aller sur un registre particulièrement commercial ou en fait dans l'air du temps. Mmh. Mais l'air du temps, il est important dans la culture populaire. Mais c'est-à-dire que je m'en suis imprégné, mais j'ai pas toujours forcément voulu aller dans le sens de la culture populaire. Mais par contre, de fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je faisais qui étaient dans la culture populaire et qui étaient, entre guillemets, dans l'air du temps. Mmh. Donc ça veut dire que finalement, c'est intéressant d'être aussi dans la synergie de l'époque dans laquelle on vit et d'être finalement pas forcément déconnecté des éléments qui nous entourent et des faits sociétaux, etc. Donc ça, c'est un truc assez important. Je pense que là-dessus, je suis resté fidèle à ça. Je suis resté fidèle à ce côté un peu éclectique et finalement à ce brassage et ce métissage en fait des idées et des émotions. Donc là-dessus, j'ai l'impression d'être resté complètement fidèle.
D'accord.
Après, comme je l'ai expliqué précédemment, ça s'est transformé et finalement traduit par finalement d'un point de vue formel des choses différentes selon les époques.
Ouais.
En fait, moi, je suis un artiste solo, donc du coup, il y a plus cette dualité. Enfin, il y a des questionnements très personnels et qui font que, en effet, on peut avoir l'impression que ça dévie, mais en fait, fondamentalement. Pour être très clair, j'ai l'impression de faire toujours le même morceau depuis 20 ans. Et en fait, je pense aussi que la forme n'est pas ce qui est le plus important. Le fond, en fait, il bouge pas. La forme, elle bouge parfois, mais c'est un leurre, en fait. Je trouve que c'est vrai que moi, ma culture musicale, elle est assez variée. Et finalement, moi je trouve que on peut mettre, enfin en tout cas moi je mets sur le même niveau et dans le même registre en fait, des gens comme Tom Jobim et Thom Yorke en fait, ou voilà, Aphex Twin et finalement Debussy. Ça peut paraître un peu bizarre, mais étonnamment en fait, pour moi ça fait sens et ça veut dire exactement la même chose. Après, d'un point de vue formel, certes c'est différent. Et ce mouvement perpétuel, c'est la trace de vie en fait. Ça veut dire qu'on est vivant. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on reste complètement figé, en tout cas si moi je reste immobile, il y a l'idée finalement d'être un peu emprisonné. Et donc, je parlais tout à l'heure aussi de liberté, voilà. Et il y a cette recherche perpétuelle. Donc ça, c'est évident.
Ouais, après, toi, tu as forcément ton point de vue de toi, de ce que tu portes. Ouais. Et moi, toi concernant, j'ai mon point de vue de consommatrice, entre guillemets. Ouais. Et pour moi, la forme, elle est... Il y a des virages très forts. Peut-être toi, tu n'en as pas conscience, parce qu'effectivement, il y a un fil tendu souterrain, c'est toujours toi le même, il y a une signature qui est claire. Ouais. Mais en même temps, dans la forme, il y a des albums qui ne se ressemblent pas du tout.
En fait, ils sont quand même liés par la voix.
Ou des projets. Oui, mais il y en a où il n'y a pas de voix, quasiment.
Il y en a où il n'y a pas de voix, mais on sent quand même... Enfin, c'est ce que je parlais aussi sur l'apprentissage, en fait, de la grammaire et du vocabulaire. En fait, là, il y a quand même des emprunts. On voit quand même des traces. C'est-à-dire, finalement, c'est la manière dont on mélange les choses qui fait que ça devient une vraie signature. Et que ça soit... Après, c'est une question de rapport. En fait, c'est une question de perspective. Donc, si on veut aussi reprendre ça, cette idée-là, la perspective, on la retrouve en architecture et en photographie. En fait, c'est qu'est-ce qu'on met devant? Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut faire voir en premier? Donc, moi, je dirais plutôt que, en fait, au fil des disques, c'est un peu ça la problématique. C'est-à-dire que le focus n'est pas le même selon les disques. Mmh. Et il y a des disques de chansons, par exemple, que j'ai fait, où, en fait, vraiment, en arrière-plan, il y a un travail, par exemple, de tessiture sonore qui est assez incroyable, mais qui n'est pas mis en avant et qu'on n'entend pas forcément à première écoute. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est un chanteur qui raconte des histoires. Mais derrière, il y a finalement une distorsion et il y a, en tout cas, de la perturbation. Et sur d'autres disques, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette perturbation, elle est mise devant et la position de la narration, en tout cas avec le chant, elle est un peu mise derrière. Et puis d'autres fois, il y a des citations. C'est-à-dire, il y a finalement des extraits, des bribes de phrases qui seront des citations et qui vont faire finalement office de narration. Puis d'autres fois, il y a des morceaux qui sont purement instrumentaux, mais la manière dont les choses sont assemblées nous fait quand même la narration. Donc, voilà, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Voilà, moi je vois ça de mon prisme et de mon point de vue.
Oui, je ne sais pas si j'ai raison. Je parle d'une sensation très claire.
Mais oui, mais c'est ta sensation qui est la bonne. Parce que moi, en fait, finalement, moi je fais les choses, je ne les réécoute pas trop.
Après, c'est toi.
Voilà, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est finalement ce que les gens. Parce que la force des chansons aussi, c'est le pouvoir évocateur des choses. Donc les gens, ils prennent les chansons. C'est ça qui est bien avec la culture populaire aussi. Ils prennent, ça fait écho à un moment personnel de leur vie. Et puis, moi, je dis toujours, voilà, je propose et les gens disposent. Donc, voilà, on s'arrête à ça.
Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui m'a vraiment à la fois frappée et quelque part, même plus que frappée, un peu touchée. C'est-à-dire, je me suis dit, pour moi, c'est vraiment un défi de haute voltige.
Oui, il y a le défi.
Risque permanent de conserver l'identité. Ouais. Parce que tu ne peux pas faire autrement, elle est très singulière chez toi. Et ce côté justement, qui n'est pas dans le vent, tu vois, qui n'est pas forcément dans le courant, qui va pas être calibré de manière à ce que on fidélise un peu l'auditeur, toujours un peu de la même manière. Alors qu'au fond, c'est... Effectivement, tu racontes toujours la même chose quelque part. Mais il y a.
Mais c'est intéressant ce truc-là, parce que finalement, c'est une vraie question et que je me suis posé plein de fois. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il faut donc faire toujours le même disque et d'une certaine manière enfoncer le clou comme ça? Et ce que. Enfin, c'est ce que. Il y a certains collègues à moi qui font ça, par exemple, des gars comme Miossec ou Dominica, qui sont exactement de la même génération que moi, etc. On a commencé pareil, etc. C'est un peu la même fournée. Eux, en fait, ils ont décidé de faire toujours le même disque. Fondamentalement, c'est toujours la même chose. Et en fait, moi, j'ai fait vraiment l'inverse, c'est-à-dire que justement, à chaque fois, je voulais me réinventer. Il y avait cette idée de vouloir se réinventer. Donc peut-être ça veut dire aussi qu'on n'est pas satisfait par rapport à ce qu'on pense être ou ce qu'on voudrait être. Donc ça, c'est possible. Mais et donc après, c'est des stratégies de carrière. Et au début, moi, quand je faisais mes... Parce que la roue, elle tourne, en fait, et la musique, elle est très cyclique. Donc, en fait, si tu restes exactement au même moment, au même endroit, et que tu es immobile, en fait, fatalement, en fait, il y a une probabilité plus forte pour qu'à un moment donné, ça tombe sur toi. Donc ça, c'est des choix qui sont, on va dire, c'est du marketing de base, et c'est une préconisation qui est vraiment assez limpide en termes de survie artistique. Mmh. Si tu fais ça, tu as plus de chances finalement que ça soit bingo en fait. Mais moi, ça me cassait un peu les pieds, et surtout au début de ma carrière, moi j'ai commencé dans un cadre finalement où j'avais l'impression de faire un peu ça, c'est-à-dire il y avait une certaine logique. Oui, c'était dans l'air du temps, c'était même un peu précurseur, mes premiers albums de chansons, dans un métissage comme ça, vraiment, qui mixait un peu... finalement, un mélange entre l'acoustique et l'électronique, voilà, c'était un peu une nouvelle proposition. Et voilà, tout d'un coup, le succès est arrivé, en tout cas, il y avait vraiment un écho, voilà, et qui était très favorable et très intéressant. Après, j'ai développé parallèlement, mais je commençais déjà un peu à m'ennuyer, après, je développe parallèlement et progressivement en même temps, d'ailleurs, le projet Snooze, donc fait avec un label étranger. Mmh. Et là aussi, on est au début, vraiment aux prémices, finalement, de la musique électronique. Mmh. En Europe en général, c'est-à-dire il y a tout un coup un nouveau courant de musique qui arrive avec des groupes comme Massive Attack et tout ça. Mm. Et là il y a aussi un succès qui arrive parce que d'un coup j'arrive à sortir mon disque, tu vois, dans plein de pays, il y a beaucoup d'échos. Tous les canards que je lisais quand j'étais gamin, d'un coup je suis chroniqué dans ces trucs, j'ai mes chroniques dans mes articles dans Days and Confused, dans Melody Maker, dans NME, etc. Et ça, d'une certaine manière, c'était vraiment un rêve d'enfant aussi. Donc ça, tout ça est très cool. Très cool, mais aussi très ça donne des ailes, et c'est, et puis à un moment donné il faut quand même voilà, en effet, moi je décide après de casser ce truc là, et du coup c'est vrai, voilà, c'est à ce moment là où il y a presque une fracture où je me dis tu dois continuer à chercher en fait. Donc cette recherche là voilà, elle me ressemble aussi, parce que voilà, je suis pas quelqu'un de très sédentaire, et il y a cette... Quand j'étais gamin, je courais dans tous les sens et j'essayais un peu... Je me débinais tout le temps, en fait, moi. Donc, je continue à me débiner d'une certaine manière. Mmh. Mais c'est, débiner, c'est un peu, pas un truc genre... je ne veux pas faire face. Au contraire, je suis un explorateur.
Oui, oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Tu me l'enlevais de la bouche, t'es un explorateur. Du coup, pour conclure sur ça, c'est intéressant. C'est quoi ton rapport à la notoriété? Parce que, à un moment donné, elle était clairement... Elle est palpable pour toi. Tu as eu besoin de déconstruire ça. Et maintenant, tu en es où par rapport à ça?
Ben, en fait, c'est une bonne question, parce que la notoriété, en fait, grand public, je l'ai plus, mais volontairement, je ne l'ai plus. Mais aussi parce que voilà, les médias ont changé aussi, parce qu'à un moment donné, à la fin des années 90, début des années 2000, voilà, il y avait vraiment des supports qui existaient, qui me permettaient d'être visible auprès du grand public. Mmh. Et après, dans mes choix artistiques, en effet, il y a eu des vraies mutations, et qui ont fait que d'un coup, je suis reparti dans une sorte d'underground, en fait. Et du coup, voilà, je me suis... de toute façon, j'avais deux audiences, donc deux faits d'avoir deux audiences, un pour Dalcan, un pour Snooze, par exemple, ça a fait que, de toute façon, j'ai complètement scindé mon public en deux, et sans m'en rendre compte, en fait, finalement. Donc, pour moi, ça paraissait naturel, puis on s'en moquait un peu, il y avait des exemples anglo-saxons qui faisaient que ça fonctionnait. Moi, je me disais, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, ici, c'est un peu... Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était... ça se faisait pas trop,
non.
Et du coup j'en ai fait un peu les frais, et donc ça, c'est un... Ouais, mon rapport à la notoriété, du coup, il a changé, et aussi finalement la manière dont je peux vivre de mon art, entre guillemets, mais en même temps, tu vois, j'ai réussi à... Après, j'ai fait une coupure pendant un bon moment, et après, le fait de revenir avec ce projet Tempérance, enfin, il y a déjà Hirondo qui revient en 2014 avec Piaz, etc., qui est vraiment c'est un disque de classique, en fait, donc c'est des super belles chansons, etc., mmh. Et on parlait de ses perspectives, qu'est-ce qu'on met comme focus devant. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de textures sonores qui étaient vraiment mis volontairement derrière, et donc là, par exemple, ça aurait pu être un disque... C'est un disque qui n'a pas fonctionné, et il aurait pu fonctionner, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné, si ce n'est qu'au final, peut-être que là, du coup, il aurait fallu être plus abusif, mais je voulais vraiment faire un disque classique. Donc là, il y a une première faillite, en fait, et après, il y a ce projet Tempérance que je fais, et qui est étonnamment peut-être un des projets les plus underground, en fait, que j'ai fait, mais en même temps les plus libres, et qui me représente le mieux, en fait, au jour d'aujourd'hui. Donc je suis très fier de ce truc-là. Mais je ne l'ai pas fait du tout, justement, donc pour revenir sur ta question, pour essayer d'avoir une notoriété quelconque. En fait, je m'en suis donc un peu foutu, enfin, je m'en moquais. Je m'en moque toujours, mais parce que je trouvais que c'était plus intéressant, finalement, de faire un témoignage sur ce qu'on était au jour d'aujourd'hui. Donc ça paraît des grands mots, mais au final, c'est quand même vachement important. C'est-à-dire que c'est bien parfois d'avoir une satisfaction du travail qu'on fait. Et de manière un peu ironique, en fait, c'est avec ce disque-là, d'un coup j'ai une victoire de la musique.
Donc, c'est ça.
Donc tu vois, on peut s'en amuser. Donc je comprends bien aussi, et c'est, en tout cas c'est comme ça qu'il faut le comprendre, que c'est une victoire de la musique qui est plus globale en fait, qui est plus un témoignage de la profession, de dire ouais ok Dominique il est là depuis un moment et il a toujours été droit dans ses bottes, donc c'est cool, on a envie de le célébrer aujourd'hui. Il faut le prendre comme ça, en tout cas c'est comme ça que je le prends moi.
Est-ce que tu as des obsessions?
Non.
Est-ce que il y a des choses avec le recul ou sur le moment qui t'ont manqué dans ton parcours?
Ce qui m'a manqué, c'est l'accompagnement.
Professionnel, l'encadrement.
Professionnel, oui. Ouais, complètement. En fait, on a tous chacun des compétences et moi j'en ai j'estime en avoir beaucoup en fait. Par contre, on est tous aveuglés sur nous-mêmes en fait. C'est très facile d'avoir un avis sur le voisin, sur l'autre, sur son compagnon, son ami, son camarade, son collègue, son n'importe quoi en fait, c'est-à-dire l'autre avec un grand A. Mais en fait, c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Et donc c'est intéressant d'avoir des gens à ses côtés qui peuvent éventuellement et qui s'autorisent à avoir un avis et des suggestions bienveillantes par rapport à un développement de carrière. Et donc ça j'en ai manqué. J'en ai manqué, mais en même temps, donc ça m'a forgé aussi, ça m'a forcé plutôt à être responsable et surtout à faire ses choix et les assumer.
Ok. Est-ce qu'il y a une période ou un événement que tu as considéré comme vraiment galère?
Bien sûr, dans la deuxième partie des années 2000, 2005-2010, quoi.
D'accord.
Une décade vraiment terrible pour moi.
Tu peux me dire lié à quoi ou pas?
D'ordre personnel, de décès, de problèmes de santé, enfin bon, toute une conjugaison de choses qui m'ont D'accord. complètement éloigné de la musique. Hein.
C'est ce que tu disais quand tu disais que tu es revenu, du
ouais.
coup.
C'est très bizarre, c'est assez étonnant en fait. Moi, tu vois, j'ai arrêté de faire de la musique pendant quasiment 10 ans en fait. C'est quand même particulier ça. Presque 10 ans, mais en tout cas, ouais,
ah oui,
mentalement,
c'est pas 6 mois quoi.
Ouais, ouais. Et en fait, c'est quand même bizarre hein, de faire ces allers-retours, hein, ce truc un peu justement up and down. Et en fait, comme là, il y a vraiment un truc de parcours et il y a un truc presque de croisade. Donc ça, c'est un truc que j'avoue, c'est pour ça que j'étais vachement content aussi finalement. C'est pour ça que c'était important de faire ce truc de tempérance. Donc on revient un peu sur la question précédente. Tu vois, les albums, ils coûtent en fait, ils ont un prix quoi. Et en tout cas, moi, j'envisage comme ça, tout du moins. Donc du coup, c'était d'autant plus cool d'avoir cette récompense, mais surtout d'avoir la récompense, c'était déjà de pouvoir refaire des disques et de m'autoriser à refaire des disques en fait, tout simplement, parce qu'on ne m'a jamais interdit quoi que ce soit.
Mais quand tu es revenu du coup, est-ce que tu es revenu avec le même naturel que quand tu as commencé, ou est-ce que tu es revenu après 10 ans différemment, c'est-à-dire en mode survie?
Non,
il faut que je fasse ça.
C'est-à-dire en fait tu reviens avec des bagages, avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de force et beaucoup d'expériences de vie en fait. Moi aujourd'hui, j'estime en avoir beaucoup et d'avoir traversé beaucoup de choses. Et en fait, ce truc-là te donne finalement une autorité. D'accord. Et en même temps, il faut donc jamais oublier que il faut aussi avoir une sorte de candeur par rapport au travail des chansons qu'on essaie de faire. Donc ça, c'est un truc, une sorte de mélange entre une maturité et puis quelque chose de juvénile. Il y a une vraie.
Non, mais il y a ça chez toi, très clairement.
Ouais, mais ce truc, il est important. En fait, il y a. Et c'est pas une question de bras de fer. En fait, c'est plutôt une question d'assemblage entre, finalement, le passé et puis le présent pour, finalement, peut-être se sentir. Pour préparer le futur, entre guillemets. Mais, Donc, comment je me suis senti, plutôt. Et donc, ces allers-retours, ce truc d'arrêter aussi longtemps, c'est un truc qui est un peu inédit. Il y a certains mecs qui font ça. Mais l'idée du comeback en général dans la musique, il est assez important. Il y avait un disque de Prefab Sprout qui s'appelait The Comeback, qui était très beau, très cool. Des mecs aussi, Velvet, le fond, John Cale l'a fait vachement. Et des mecs, tu vois, de toute cette veine-là, même. Je sais pas, même dans les minimalistes.
Pourquoi tu dis que c'est vachement important?
Mais si, voilà, l'éloignement. Puis même dans l'histoire, dans notre histoire, voilà, même dans l'histoire de France, il y a toujours des exils, il y a des trucs. Même finalement, mais dans le, tu vois, dans l'Odyssée, voilà, tu lis Homère, voilà, il y a de l'isolement, il y a de l'exil, et puis il y a un retour toujours, et puis voilà, qui a coûté. Voilà, il y a des choses qu'on laisse derrière soi. Si, c'est quand même juste l'histoire de l'humanité, en fait, si on veut résumer. Je veux dire, si tu fais une métaphore avec le sport, voilà, il y a plein de gars qui arrêtent un peu des filles qui arrêtent une discipline et après ils s'y recollent.
Oui.
Ils y reviennent. Et en fait, il y a quand même cette idée de retour. Et un retour qui est tellement, qui fait beaucoup de, qui fait souffrir énormément. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une ingratitude absolue dans le sport et dans le corps en général. Voilà. Donc, c'est des mécaniques.
Mmh.
En fait, la mécanique, de fait, elle a envie d'être en mouvement.
Oui,
elle est conçue pour être en mouvement.
Est-ce que tu as eu un déclic fort pour partir dans ta voie d'artiste sonore?
Non.
Ou est-ce que ça s'est fait vraiment presque malgré toi?
Ouais, depuis que j'étais gamin, j'ai toujours été intéressé par la musique.
Donc il n'y a aucun moment où tu t'es dit « bon, bah, je vais faire ça ». Tu l'as fait, quoi?
Bon, je savais que j'allais le faire. Après, le déclic, c'était plus... Non, j'ai toujours su que j'allais le faire.
Est-ce que tu as un fantasme artistique assouvi ou non assouvi? Est-ce que tu en as eu un que tu l'as assouvi? Est-ce
ouais,
que tu en as
avais,
encore un
Ouais, j'en avais. J'en avais, mais non, j'en ai plus du tout.
T'en as plus?
Non, c'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses. Je suis très contente. Il y a certains disques que j'ai faits, parce qu'on ne pourra plus jamais les refaire, parce qu'ils appartiennent à un autre paradigme, en fait. Mais voilà, tu vas aller enregistrer des orchestres à Capitol Studio à Los Angeles, dans le studio de Frank Sinatra, etc. Ça, c'est des trucs super cool, où Tom Jobim aussi a été, avec, j'ai fait des morceaux avec des super beaux... chef d'orchestre, etc. Enfin, ça, c'était magnifique. Bon, voilà, j'ai bossé avec plein de gars qui ont travaillé avec mes idoles et tout ça. Donc, ça, c'était très chouette.
Est-ce que tu as une journée type?
Une journée type,
à peu près, parce que j'imagine.
La journée type, oui. elle est que de toute façon, déjà, la moitié de la journée, elle est derrière un écran. Donc, déjà de base, quoi. Donc,
ok.
Et avec, on va dire, 40% de business, en fait. Et 10% éventuellement de création de musique. Mais...
Oui, quand même.
Voilà. Donc en fait la journée type c'est ça. Et en fait en réalité si on veut même aller un peu plus loin, moi je fais de la musique, je sais pas, peut-être 2 mois dans l'année quoi. Donc, très peu en fait. Mais par contre j'y pense beaucoup. Et, donc je travaille comme ça. Mais je veux dire, j'ai pas le temps de. Des fois pas d'endroit aussi pour travailler. Donc voilà.
C'est très intriguant ces histoires d'endroit. Hein. Avec toi.
C'est très fatigant surtout en fait. C'est vraiment. C'est très intéressant d'avoir un lieu. J'ai été en résidence pendant un an au Studio des Variétés, ça m'a permis vraiment d'avancer terriblement. Avant j'étais en résidence au Cube ici à Moulineaux, qui est un lieu un centre d'art numérique. Là je vais commencer du 10 au 30 septembre une résidence au 104. Donc ça c'est des lieux de travail pour moi, c'est vachement important. Il y a des disques que j'ai fait vraiment et que je continue à faire, parce que là, je viens de faire un autre projet sur des coins de table, en fait, dans une table de cuisine, en fait. Donc, à un moment donné, ça impacte évidemment quand même sur le résultat, quoi. Pas sur la créativité, mais sur finalement le confort et puis le temps que tu passes à faire les choses, c'est-à-dire en fait... sur la perspective sonore, elle est quand même différente quand tout d'un coup tu entends vaguement ce que tu fais ou quand finalement tu crois entendre mais tu n'entends rien du tout.
Donc, et il n'y a pas un endroit où tu t'es installé un studio, un poste de travail quoi.
Non, mais enfin, je veux dire, là aujourd'hui, j'ai pas du tout les moyens de le financer. Donc,
non, mais je.
Donc c'est ça. En fait, avant, j'avais des studios, j'en avais plein, j'en ai eu plein, j'en ai eu en 17e, en 20e, etc. Mais, là, j'ai pas de cabine pour moi quoi. Donc du coup, mon travail, mon travail a changé aussi, en fait. Enfin, la manière de travailler, elle a vraiment changé. Voilà.
Ouais. C'est compliqué, ça. Est-ce que tu as un héros?
J'en ai. J'en avais quand j'étais petit, j'en avais plein, ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que j'en ai? Je te dirais non, puisque ça rejoint ta question sur le fantasme. J'ai pas particulièrement de fantasme en musique. J'ai pas particulièrement de héros aujourd'hui. Parce qu'il y a ce côté, genre, je voudrais faire comme dans un héros. Le héros, c'est quelqu'un qui est un guide et qui est un modèle, en fait, et, on se dit, et qui donne de la force. Et donc voilà, moi, Et donc on revient aussi sur l'histoire de la croyance, c'est-à-dire on croit en quelque chose, tu vois. Et donc là, moi, j'ai un peu abandonné tout ça. Donc non, j'ai pas de héros aujourd'hui. Mais quand j'étais gamin, j'en avais beaucoup. Et il y avait beaucoup de héros qui étaient issus de la culture pop, comme ça, et aussi des sportifs. Et, voilà. Et après, oui, j'avais des modèles en tant qu'artiste débutant, tu vois, j'avais pas mal de j'avais des modèles, surtout vocaux.
Est-ce que c'est important pour toi la notion de priorité ? Avec tout ce que tu fais, est-ce que tu arrives à en avoir ? Ou alors tu n'as aucune notion de la priorité et tu fais un peu comme ça vient ?
Ouais, en fait, je vais plutôt vers une attitude de colmatage, en fait, des brèches. C'est aller au plus urgent et au plus vite, ouais, en effet. Donc là, il y a une volonté d'une certaine stratégie et de plan, ouais, en fait. Mais très vite, en fait, le plan capote, quoi.
C'est chaud. Est-ce que tu as un ou plusieurs regrets ? Des choses que tu as fait, tu n'aurais pas aimé faire, ou au contraire, que tu n'as pas fait et que tu aurais eu envie de faire, ou mieux, ou différemment ?
Non. Enfin, si on parle de musique, non.
Qu'est-ce que tu considères être comme ta plus belle victoire ?
Oui, mais... moi après, voilà, mais c'est pas du tout... Enfin, moi, mes belles victoires, elles sont pas sur la musique, quoi. Tu vois, j'étais super content d'avoir constitué une famille.
Oui, mais c'est pas forcément...
Voilà, moi, c'était ça, ma réussite, quoi.
Ça, c'est une victoire pour toi.
C'est une réussite, en tout cas.
Super. Qu'est-ce qui te met très en colère ?
En fait, l'idée préconçue, c'est ça qui me met vraiment... L'idée préconçue, c'est ça qui me met en colère. Et ça touche tellement de trucs, en fait. J'aime bien cette réponse-là, parce que je trouve qu'elle est...
Tu le vis toi-même, en dehors du fait que tu l'observes, toi-même, tu le vis.
Bien sûr. Mais même moi, finalement, j'en suis victime. Moi, j'en suis victime, mais parfois aussi même. Tu vois, j'ai des idées préconçues sur les gens ou les choses. Et je me déteste à ce moment-là. Enfin, je me dis, tu es vraiment un gros connard, quoi.
Mais parce que on peut avoir un peu de souplesse par rapport à ça.
Mais on l'a, mais j'essaie de l'avoir au maximum, tu vois, parce que moi-même j'en souffre aussi, tu vois. Parce que plein de gens ont des idées préconçues sur moi qui sont archi fausses et qui n'en changeront jamais. Mais c'est comme le j'aime pas, on ne sait pas pourquoi on aime quelque chose. Mais en fait, après, à un moment donné, on aime les choses en effet, voilà, pour des mauvaises raisons. Donc ça, on revient là-dessus. Et puis après, voilà. Le rapport aux autres, il est quand même construit là-dessus. Et c'est exactement la même chose qu'un mec qui va. On parle vachement des migrants en ce moment, enfin on est vraiment là-dedans, quoi.
Ok, qu'est-ce qui t'inquiète ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète ?
Je ne saurais pas dire aujourd'hui. Enfin oui. Non, c'est la solitude, ouais, qui m'inquiète.
Ah oui ?
Ouais, en fait, parce que finalement, c'est terrible, en fait. Elle est terrible. Elle est terrible parce qu'elle peut dévaster, en fait. Elle peut ronger, elle peut... Non, dévaster, c'est le bon terme. Et en fait, et c'est insidieux, en fait. Donc, en fait, ma meilleure réponse, elle est... je te renvoie sur... si tu as le temps et la curiosité, évidemment. Sur un film que j'ai fait il y a, quelques années, je pense en 2015, je crois,
ouais.
Et qui s'appelle From Here to Eternity. Et en fait, c'est l'histoire, je t'enverrai le lien, c'est l'histoire justement d'un animal qui veut changer sa condition et qui veut aller explorer le monde. Et il se retrouve finalement, il fait ce voyage initiatique et... Bon, je te raconte pas la suite, mais voilà. En toile de fond, il y a cette idée de solitude.
D'accord.
Voilà, et je trouve que il résume vraiment parfaitement, finalement, ce que je pense, globalement. Enfin, il synthétise, je pense, beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui.
Ok. Est-ce qu'à un moment, peut-être ça rejoint une chose qu'on a déjà dite, mais c'est pas grave, tu t'es senti vraiment à terre, quoi, achevé, genre encerclé ?
Bah oui.
Ça revient à la période.
Non, mais ça. Enfin, non, mais je me sens. Mais tous les jours, en fait, moi, je me sens découragé, en fait.
Tous les jours.
Ouais.
À un moment dans la journée, tu le ressens.
Non, mais grave.
Putain, ça fait super. Oh, merci. Je suis désolée. Hein.
Ouais, bah, c'est pas si cool. Hein.
Donc, parce que même si je vais bien.
Ah, mais c'est pas une question d'aller bien ou pas bien.
Ça n'a rien,
fait,
à, voir.
Rien à voir. Mais là, pour le coup. Non, moi, je veux dire, chaque jour, je me demande si j'arriverai à finir la journée, si je vais être capable, finalement. De la vivre, de l'envisager, mais ça ne veut pas dire vivre et donc non vivre. Il n'y a pas l'idée de mort là-dedans. Il y a l'idée plutôt de voilà, est-ce que j'ai la force de le faire ? Est-ce que finalement je suis capable de faire les choses ? C'est-à-dire que c'est plutôt le synonyme du doute. Voilà, il y a des passages dans la journée où, évidemment, j'ai quand même des moments de découragement qui sont, on va dire, significatifs.
Alors, là, ça est simple, oui ou non. Est-ce que tu te sens comblé?
Non.
Non. Est-ce que tu te sens reconnu?
Non.
Non. Est-ce que tu te sens épanoui?
Non.
Est-ce que tu te sens compris?
Ben, je me comprends pas moi-même déjà, donc non. Ça, c'est sûr, là, pour le coup.
Est-ce que tu te sens fier?
Ça dépend du moment, mais ça m'arrive.
Tu peux dire parfois?
Oui, parfois.
Est-ce que tu te sens engagé?
Parfois. Tu m'as donné cette opportunité.
Tu vas me dire peut-être, bientôt j'adore. Est-ce que tu te sens, mais je sais, non, mais en même temps, c'est ouais, pas,
si tu ouvres le
c'est
truc,
pas fermé. Est-ce que tu te sens serein?
Non. Non.
Ben oui, mais moi j'aurais répondu non à tout. Hein. Est-ce que tu te sens chanceux?
Parfois je le suis.
Est-ce que tu te sens
seul? Je pense que je suis chanceux. Non. Je réponds oui en fait.
Ok, est-ce que tu te sens seul?
Mais parfois je le suis en effet. Donc.
Est-ce que tu te sens heureux?
Bah, en fait, au vu quand même des réponses précédentes, la réponse serait donc c'est un peu oui, c'est parfois machin, mais ça ne peut pas être oui, hein, oui, franc et massif. Parce que là, du coup, il y a quand même une sorte de. Ce ne serait pas logique. Après, ce n'est pas forcément une question de logique. Donc
oui,
moi, j'ai envie de te dire plutôt précise à quel moment, tu vois, en général. En fait. De toute façon, globalement, les dernières questions, on ne peut pas y répondre. Hein. Donc, voilà. Donc je botte complètement.
J'en ai conscience.
Donc je botte complètement tout sur toutes ces dernières questions. En fait, là, voilà, là, je suis désolé, mais ce sera donc un veto là-dessus.
T'inquiète, je m'en sortirai.
Sinon, je balance des mails à l'UNAC. Vous savez quand même qui.
Tu peux. Tu sais, j'assume. Et puis je suis là pour te sublimer.
Non, parfait.
Je suis pas là pour t'abîmer. Est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote marrante, alors professionnelle ou pas, un truc qui t'a marqué récemment, vu que tu es un grand observateur et que tu es une éponge aussi. Est-ce qu'il y a un truc récemment qui t'a fait tilt?
Oui, en effet, je suis observateur et je suis une éponge. Et en même temps, je suis vraiment... C'est un peu inquiétant aussi. Enfin, j'ai aucune mémoire. Et ce truc-là, il est aussi assez particulier, puisque finalement, c'est justement ma vraie hantise sur les concerts, par exemple. En fait, je n'ai aucune mémoire. Donc c'est peut-être parce que je ne mange pas de poisson que je manque cruellement de phosphore. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Mais quand on creuse, ça revient. Mais du coup, j'ai toujours un décalage terrible. Donc je n'ai pas là, a priori, une anecdote particulière à donner.
D'accord.
Mais peut-être qu'elle va venir, là. 5 minutes ou dans une heure. Enfin,
pas de problème. Ça aurait pu être aussi un truc marquant de ta carrière, un truc
non,
qui t'a. Enfin, qui est improbable.
Non. Ah ben improbable. Non, enfin oui, non, mais il y a des tonnes de trucs, mais. Rien de si. Rien qui m'inspire aujourd'hui, là, au moment où je te parle.
Ok. Voilà. On a bientôt fini. Ton cauchemar est en train de s'achever.
Pas un cauchemar.
Si on était le 1er janvier, là, j'imagine que tu n'en prends pas, mais admettons que tu en prennes des résolutions, tu prendrais laquelle, là, tout de suite?
Ah oui, alors j'en prends pas sur le 1er janvier, c'est sûr.
Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça, tu vois.
Et
je
d'ailleurs,
te connais un peu maintenant.
Bah non, mais surtout, enfin, je veux dire, pourquoi le faire, déjà, de 1
bah ouais.
Et pourquoi le 1er janvier? Mais c'est, ça renvoie plutôt à quelque chose aussi. J'ai discuté avec une fille hier, elle me dit, ouais, enfin, on parlait des. Justement, elle se questionnait sur les résolutions, et il y a des gens qui, en effet, disent à 20 ans, je vais faire ça, à 30 ans, j'en serai là, et à 40 ans, j'en serai là.
Ou demain je reprends le sport, après demain j'arrête de fumer.
Ah ouais, bah si, alors moi je prends ces résolutions là.
T'en prends?
Oui, bah celle-là, celle que tu veux dire.
Le sport,
en fait, j'avais pas pensé en fait.
Non, mais si t'en prenais là tout de suite,
bah ouais,
tu prends quoi là?
Ah non, je me dis, ouais, voilà, chaque jour je me dis, ouais, je vais reprendre le sport.
Ok.
Et en fait, je le fais pas.
Et ça, bah, peut-être que le fait de l'apprendre, ça suffit?
Non, bien sûr que non. Donc c'est misérable. Mais après je le fais pas parce que justement il y a eu toutes ces merdasses qui me tombent dessus et d'un coup je dégage pas du temps pour moi. En fait le truc c'est que je dégage pas du temps pour moi.
Donc peut-être ce serait dégager
en fait,
du temps pour toi.
Une résolution?
Ouais.
Ah, ce sera
qui te ferait du bien.
Ah, ce sera un super espoir.
Un espoir carrément? Un vœu même? Est-ce que ce serait
j'aimerais
un
beaucoup.
Vœu?
En tout cas j'aimerais beaucoup.
J'aimerais beaucoup.
Ah, c'est une vraie envie.
Ouais. Ok, bah tu peux commencer aujourd'hui, tu sais ça.
Je suis...
Pas demain, c'est ça que je veux dire.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est des résolutions que j'ai déjà prises. Et en effet, je ne les ai jamais tenues, vraiment. Et exactement. Merci de m'avoir fait penser. Non, mais je te jure, ça... Voilà. Dégager du temps pour moi, vraiment. Et ben, en fait, c'est un vœu. Et en effet, J'arrive jamais à l'appliquer. C'est très très bizarre.
C'est intéressant, du coup. Mais du coup, est-ce que ma dernière question, puisque c'était pas la dernière, mais maintenant elle se place comme dernière, est-ce que il y a quelque chose que tu pourrais dire qui serait de l'ordre, pas du conseil, mais d'un constat que tu as fait, et si on t'en avait parlé, tu aurais gagné du temps.
Je reviens sur un truc que j'ai dit avant, et en effet, qui me semble quand même assez important. Voilà. On ne peut pas, là, pour le coup, un conseil qui serait donc un conseil artistique, c'est de suivre, en effet, d'être fidèle à soi-même, en fait. Donc de garder vraiment ses idées et essayer de les tenir au maximum. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on n'arrive pas à faire les choses toujours seul, en fait. Et donc, c'est pas mal d'être capable, et ça fait partie quand même de l'éventail des qualités à avoir, d'être capable de s'entourer. Donc ça, je pense que c'est une vraie qualité, de s'entourer de personnes qui sont... qualifiantes, mais c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas... des personnes adéquates pour vraiment représenter bien le projet et la personne. Okay. En fait. Donc ça, c'est un truc vachement important, parce que des fois, il y a des gens qui sont ont une super expertise, mais qui ne vont pas être les bons ambassadeurs. Donc c'est important, en fait, voilà, d'avoir du talent, de s'entourer de bons ambassadeurs, pour refaire la phrase et la synthétiser. Donc voilà, suivre son chemin et être vraiment super intègre par rapport à ça. Ça veut pas dire bêta et fermé, au contraire. Ça veut dire être fidèle à soi-même et être aussi capable de s'ouvrir aux autres et de s'entourer d'ambassadeurs, c'est vachement important.
Ouais.
Voilà mes préconisations.
Magnifique préconisation. Merci. Monsieur le grand sage.
Non, mais là, pour le coup...
Éclairé.
Ça, c'est vraiment un truc...
fondamental.
Quand même.
Ok. Ah, ben ça y est, j'ai fini de te triturer. Tu vois, c'était pas si terrible.
Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il est midi, moins 10. Il faut que je filme.
11h50, c'est parfait.
Donc, tu vois, finalement, on a quand même...
Je te remercie. Ouais, j'ai beaucoup de matière. Je te remercie pour ta confiance et puis ta simplicité. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir.
C'est cool, génial. Merci d'avoir pensé à moi.
J'ai pas pensé. Ce n'est pas du tout pensé.
À un moment donné,
Non, c'est venu. Enfin, c'est sincèrement, apparu, je n'y ai pas pensé. Oui.
Si ça apparaît, ça apparaît dans la pensée d'abord. Hein.
D'un coup, je ne suis pas sûre. Bizarrement.
Non. C'était juste un impact visuel, quoi.
Ah ouais, c'était un flash. Je me suis dit, je le veux.
Et puis, tu n'as pas eu beaucoup de résistance.
Aucune. Donc, voilà. Ça, j'aime bien. Merci beaucoup.
Tu l'as, quand même, franchement. C'est difficile.
Il est 11h50, heure d'exploration, et heure pour nous de sortir de la peau vibrante de Dominique Dalcan. Merci d'avoir fait le voyage, et à très bientôt pour le prochain.